fut un temps où les femmes qui voulaient s'émanciper étaient qualifiées d'hystériques, un temps où les esclaves qui voulaient s'enfuir des champs de coton souffraient, pensait-on, de drapétomanie.
Des idées qui nous semblent absurdes aujourd'hui, mais qui font s'interroger sur ce qu'est une maladie psychiatrique.
Et notre invité, c'est le docteur Charles-Édouard Rangan, médecin-chef du Centre Neuchâtelois de psychiatrie de l'adulte. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, on s'intéresse donc avec vous un petit peu à l'histoire des maladies psychiatriques. Des maladies psychiatriques, elles sont inventées ou elles sont découvertes ?
Alors, elles sont découvertes, en fait. L'invention, c'est l'usage qu'on peut en faire, ou les traitements qu'on essaye, qu'on tente, avec pas plus ou moins de succès, je dois dire, selon les époques. Mais on les découvre progressivement. Elles n'apparaissent pas, elles restent là.
Quand est-ce qu'on a commencé à parler de psychiatrie pour la première fois ?
Alors, la découverte des maladies, ça date de l'Antiquité, avec Hippocrate, qui a décrit les premières maladies mentales. Mais le mot psychiatrie, ça a été inventé par Johann Christian Reil en 1808 en Allemagne, et ça veut dire la médecine de l'âme. Et donc ça apparaît là. La psychiatrie réellement telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est très récent, ça a 5 ans, c'est des années 1950-1960. Ça a progressé très lentement parce que c'est qu'au 16e, 17e siècle où il y a eu vraiment un essor. Avant, les fous étaient qualifiés de fous, ils avaient un rôle particulier, il y avait les sorcières, il y avait les bouffons du roi, ils étaient enfermés. Il y avait beaucoup d'usage de la coercition, et c'est que très récemment, au 19e siècle, j'entends, qu'on a commencé à envisager toutes sortes de traitements, comme le traitement moral avec Philippe Pinel, dès le 18e siècle, et après la psychothérapie, bien sûr, au 19e, avec Freud notamment.
Est-ce qu'il y a des exemples de maladies psychiatriques, en parenthèse, qui étaient présentes auparavant et qui ont complètement disparu aujourd'hui ?
Alors en fait, l'expression des maladies change, au fond. C'est un petit peu comme dans les maladies somatiques, le fait de vacciner contre la tuberculose ou la disparition de la malaria, la maladie ne disparaît pas ou elle n'apparaît pas. Mais effectivement, ça change. Par exemple, l'hystérie que Sarah citait tout à l'heure était décrite et attribuée aux femmes, ça vient d'utérus. Et en fait, l'expression de la maladie change. On décrit des grandes crises hystériques au 19e siècle, avec l'influence de Charcot, par exemple, quand on hypnotisait aussi ces patientes-là. Et maintenant, on parle de troubles de conversion, de troubles dissociatifs, ou encore de troubles des troubles fonctionnels.
J'allais ouvrir mon micro. Donc les noms des maladies ont évolué, et puis les traitements surtout ont changé, parce qu'on est allé très très loin dans le traitement de certaines maladies psychiatriques par le passé.
On faisait des choses un petit peu fantasques. Au début, au 19e siècle, on pensait que l'hystérie, c'était un petit animal qui se nichait dans l'utérus, et donc il fallait le faire remonter dans la tête, parce que les femmes perdaient un petit peu le sens. Et donc on mettait des fumigations très désagréables entre les jambes et des fumigations agréables au niveau de la tête. Ça ne marchait pas toujours.
Pauvre femme.
On traite plus comme ça. Alors, je passe les traitements horribles. Il y a eu des vraies maltraitances. Il ne faut pas les oublier. On ne traite plus du tout comme ça. On a découvert les médicaments. On a découvert l'influence de la parole. Et de l'importance aussi d'accompagner les gens à les réinsérer dans la société. La psychiatrie maintenant communautaire, en ville. On n'enferme plus les gens pour un oui ou pour un non.
Actuellement, est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de maladies psychiatriques connues au répertoire, ou c'est l'inverse ? On commence à se dire qu'il y en a certaines qu'on a pensé être des maladies et qui finalement n'en sont pas.
Alors, l'augmentation, c'est lié à des modes, parce qu'il y a quand même une influence du social par rapport à certaines maladies. L'expression des maladies psychiatriques est très liée à l'influence sociale. Donc, par exemple, quand la Ritaline est sortie, par exemple, il y a eu une mode et le diagnostic d'hyperactivité et déficit de l'attention était mis très facilement. Ou, pareil, pour la bipolarité, il y a des modes comme ça qui sont souvent influencés par les laboratoires. Après, il y a aussi des maladies ou des choses qui ont été considérées comme des maladies qui ont disparu. Par exemple, l'homosexualité, c'était une maladie jusqu'en 1973 aux USA, en 1992 en France, je ne sais pas si on imagine. Maintenant, on considère que... Alors, il reste une partie maladie, je dirais, c'est ce qu'on appelle le trouble sexuel égodystonique. Et en fait, ce qui fait maladie au sens psychiatrique, c'est la souffrance que les gens expriment, ou l'entourage qui exprime aussi cette souffrance. Les gens ne sont pas toujours conscients de leurs troubles. Et c'est ça qui fait maladie mentale.
Est-ce que l'histoire de la psychiatrie est quand même une histoire un petit peu à part dans l'histoire de la médecine, parce que c'est quelque chose qui est difficilement palpable, c'est pas quelque chose de physique, justement?
Alors, oui et non, parce que la souffrance des gens est véritablement palpable. Ce qui est compliqué, c'est des travaux de Jan Hackings, par exemple, qui est un philosophe sociologue au Collège de France, un Canadien au Collège de France, qui disait que classer façonnait les gens. Et vous voyez, en sens naturel, quand on classe les choses, ça ne les influence pas en tant que tel. Par contre, quand vous classez les gens, ça les influence. Et c'est très compliqué de classer quelqu'un qui est un peu soi. Et on est tout de suite pris là-dedans. Donc effectivement, l'art, c'est de séparer la souffrance de l'autre, de la sienne. Et c'est peut-être ça le travail du psychiatre aussi, de ne pas se confondre avec le patient.
Et comment faire ça et comment distinguer les maladies psychiatriques des troubles du comportement, tout simplement. On va continuer d'en parler avec vous, Charles-Édouard Rangade.
À 3, c'est plus sympa. Format à 3.
Comment est-ce qu'un trouble du comportement devient une maladie psychiatrique ? C'est un des sujets qu'on aborde dans Format à 3 ce matin.
Et nous sommes en compagnie de Charles-Édouard Rangade, médecin-chef du Centre Neuchâtelois de psychiatrie. Nous venons d'évoquer l'histoire de la psychiatrie tout à l'heure.
Et comment est-ce qu'on distingue alors une vraie maladie psychiatrique d'une stigmatisation du comportement, Charles-Édouard Rangade ?
Ou même d'une simulation d'ailleurs. Hein.
D'ailleurs, oui.
Le cœur, en fait, c'est la souffrance. La souffrance, elle ne peut pas être simulée, elle est authentique. Et c'est ça, vraiment, c'est le cœur. Après, on peut l'appeler de tous les noms, de toutes les façons. Le diagnostic en psychiatrie permet de choisir un traitement, un type de traitement. Il ne faut jamais que ça devienne une étiquette. Parce que les troubles psychiatriques, c'est peut-être les seuls qui sont des insultes idéales. On dit rarement espèce d'enrhumé ou espèce de diabétique. Par contre, hystérique, parano...
Autiste.
Alors ça montre le poids de la stigmatisation du terme. C'est peut-être aussi pour ça que les diagnostics changent souvent. C'est pour, dès que ça devient une insulte, hop, on essaie de changer pour que ça ne devienne plus.
Alors, vous parlez de souffrance qu'on ne peut pas simuler, et pourtant, vous nous parlez hors antenne d'une expérience qui a eu lieu dans les années, au début des années 70, en 1973, l'expérience de Rosenhan.
Oui, alors c'est une expérience qui est assez incroyable. C'est un groupe de chercheurs, en fait, qui se sont fait passer pour des malades mentaux en disant qu'ils entendaient des hallucinations. Ils ont été admis dans toutes sortes d'hôpitaux psychiatriques, et les soignants n'ont pas réussi à les différencier d'autres malades mentaux. Et pire, Rosenhan écrit dans son expérience, la seule façon de sortir a été de confirmer que les psychiatres avaient raison. Et cette expérience, en fait, qu'on pourrait critiquer, on pourrait en débattre des heures, montre en fait le risque de l'institutionnalisation, le risque de la dépersonnalisation aussi du diagnostic, et en gros, le maintien d'un diagnostic qui peut enfermer la personne là-dedans. Il ne faut pas aller trop vite pour mettre une étiquette, et il faut que cette étiquette, elle conduise à la liberté du patient, et pas à l'enfermement.
Il faut quelque part qu'on ne soit jamais sûr des étiquettes, enfin des diagnostics qu'on pose, constamment se réinventer pour ne jamais être enfermé dans quelque chose.
Oui, mais c'est un peu ce qui arrive, par exemple, aux gens qui sont victimes d'abus ou d'agressions, et qui revendiquent ça. Ça peut être un moment dans la psychothérapie, de se revendiquer victime, parce qu'il faut se reconstruire à travers une étiquette, mais à un moment, il faut pouvoir lâcher cette étiquette pour redevenir soi. Et c'est le risque avec le diagnostic psychiatrique.
Il faut le recul des années pour savoir si un trouble psychiatrique était vraiment un trouble, ou bien est-ce que l'esprit critique scientifique suffit finalement aujourd'hui ?
Il y a certains troubles, c'est assez facile à diagnostiquer. Vous pourriez le dire assez vite, c'est ce qu'on appelle les troubles aigus. Par exemple, une dépression, pas besoin de faire 15 ans, on voit très vite. Après, il y a des dépressions plus subtiles. Mais il y a des troubles plus difficiles à diagnostiquer. Par exemple, la schizophrénie, les troubles schizophréniques. On dit qu'il faut à peu près 2 ans avant que le trouble s'installe. Et d'ailleurs, un auteur, Henriet, disait que en fait, la schizophrénie, c'était plutôt à la fin. Et qu'en fait, on pouvait difficilement le diagnostiquer au début, il ne faut surtout pas trop aller vite. Paradoxalement, on sait que plus on diagnostique un trouble psychiatrique tôt, meilleur est le pronostic.
Alors vous parliez tout à l'heure des troubles psychiatriques qui deviennent des insultes, mais il arrive aussi que les troubles psychiatriques ils soient revendiqués ?
Oui, alors il y a quelques cas... C'est l'effet boucle des classifications. Je disais tout à l'heure que classer façonne les gens, hein, selon l'expression de Jan Hackings, et qu'au fond, l'homosexualité, par exemple, les gens peuvent se revendiquent de ça, d'être homosexuels, mais au fond, comme une partie d'eux-mêmes, mais ils veulent se déstigmatiser de ça. L'autre catégorie, donc les autistes aussi veulent, certains patients disent, ben voilà, nous on n'est pas des patients psy, ou les entendeurs de voix, il y a aussi ce mouvement-là, on n'est pas dans la psychiatrie, mais on se revendique de cette différence. Alors il y a un premier groupe de personnes qui revendiquent une différence pour se différencier, et c'est l'auto-appropriation d'un diagnostic. L'autre catégorie de personnes, c'est des gens qui cherchent des bénéfices secondaires, c'est-à-dire des gens qui simulent ou des gens qui veulent profiter d'assurances ou dans des contextes médico-légaux, des gens qui disent « bah oui, je suis fou, donc je ne suis pas responsable de mes actes ». Ça, c'est l'autre catégorie.
Et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir en tant que professionnel dans tout cet univers-là ?
Je reviens avec ça, parce que c'est le cœur finalement de l'altérité, c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre de la souffrance de l'autre, en quoi elle est authentique, comment est-ce qu'on peut l'accompagner là-dedans. Parce qu'au fond, le but du psychiatre, c'est pas de mettre une étiquette, le but du psychiatre, c'est de permettre à la personne de se libérer de ce qui l'entrave, de se libérer de son malheur et de sa souffrance, de sortir de ses schémas dysfonctionnels, on pourrait dire.
Vous parlez de la souffrance, justement, il y a des échelles de souffrance, ça existe ?
Oui, on a plein d'outils, on peut affiner ça, parce que là, quand je parle de souffrance, c'est un vaste fourre-tout, on ne souffre pas dans tout, d'ailleurs, comme on n'est pas fou dans tout. Aujourd'hui, le trouble mental, c'est pas, il y a les gens sains, non fous d'un côté, et les gens qui ont un trouble psychique, qui seraient fous d'un autre, pas du tout, hein. On l'est tous un peu. Enfin, je parle pour moi.
On parlait pour nous aussi.
Ouais, nous on est bien. On va.
Mais voilà. Et puis, alors c'est notre
on
part.
On simule pas.
C'est notre part créativité d'un côté, mais c'est aussi notre part de souffrance, parce qu'on aspire tous à être heureux. Et puis les psychiatres ont peut-être un bout de la réponse, mais ils n'ont pas toute la réponse non plus.
Des questions vastes qu'on discute avec vous, Charles-Édouard Rangade, ce matin. L'histoire de la psychiatrie, qu'est-ce que finalement un trouble psychiatrique ? On pourrait continuer d'en parler longtemps, mais on va mettre pour l'instant cette interview sur le site de Format A3 avec les références nécessaires. Et puis on vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler ce matin.
Mais merci à vous, à très bientôt. J'amènerai mon divan la prochaine fois.
Super ! Alors il faut que ça soit grand, hein, parce qu'on veut tous...
Un divan pour quatre.
Belle journée. Format A3, c'est terminé pour aujourd'hui, mais évidemment, on aura grand plaisir à vous retrouver demain sur le coup de 8h10. Et puis évidemment, ben, la Format A3, vous retrouvez l'émission sur notre site internet. À bientôt.
À demain.
A3, c'est plus sympa. Format A3.